C'est les deux textes liturgiques pour ce 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Colossiens. Mes frères, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous meniez une vie digne de Dieu, de manière à lui plaire, portant les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et progressant à la science de Dieu. Fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire, pour rester en tout patience et persévérant dans un sentiment de joie, rendant grâce à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part de l'héritage des saints, dans la lumière qui nous a arraché la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. On se lève pour l'Évangile, continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples: quand vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient sur les montagnes, et que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour prendre sa tunique. Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit: voici le Christ est là, où il est ici, où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christs et des faux prophètes, qui feront des grands signes et des prodiges jusqu'à séduire, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit: le voici dans le désert, ne sortez pas. Le voici dans la maison la plus retirée, dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Partout sera le corps, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre feront éclater leur douleur, et verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Il enverra ses anges, et avec la trompette, aux sons éclatants, rassembleront les élus des quatre vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Comprenez ceci par une comparaison prise du figuier. Lorsque ses branches sont tendres et que ses feuilles commencent à paraître, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Veuillez vous asseoir. Attention pour ceux qui viennent à la messe cette semaine je ne serai pas là, donc c'est ma mission une fois tous les 2 mois dans le nord de la France. Donc pas de messe cette semaine, bien sûr, messe dimanche prochain à 10h. Je demande à ceux qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas habituellement ici le dimanche, ceux qui habitent dans le coin, évidemment, je sais qu'ils viennent tous les dimanches, mais ceux qui viennent de l'extérieur, passez-moi un petit coup de téléphone le samedi. Comme ça, j'ai le temps un peu de préparer la chapelle, parce qu'on est un peu serré. Donc j'ai le temps d'aménager un peu le petit bureau à côté pour mettre un peu plus de place. Donc je m'excuse pour les gens qui sont un peu les uns sur les autres, mais on fait un peu ce qu'on peut. Aussi, petit détail liturgique. Je suis les rubriques du pape Pie XII, 1958, qui est mort en 1958. Donc en principe, c'est pas obligatoire, mais en principe, il n'y a que le servant de messe qui répond aux prières, sauf le confiteur avant la communion. Le confiteur avant la communion, par tradition, est récité par tous les fidèles parce que ce n'est pas dans le missel, c'est quelque chose qui c'est une prière qui se rajoute juste avant la communion. Mais en principe, pour les prières au bas de l'autel, le Kyrie, Gloria, etc., il n'y a que le sermon, le servant qui répond, sauf aussi pour les messes chantées. Quand il y a une messe chantée, tout le monde peut chanter, bien sûr, le Kyrie, c'est-à-dire le Kyrie, Gloria, Credo, le Sanctus et l'Agnus Dei. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons à la fin de l'année, puisque vous savez que pour un catholique, La nouvelle année commence au premier dimanche de l'Avent, avec un nouveau cycle liturgique. Et donc, il faut faire un peu le point, à la fin de cette année, pour d'abord remercier le bon Dieu. On ne pense pas assez remercier. On a trop tendance à prier pour demander des choses. On dit, je veux ça, ça, ça et ça. Comme un petit gamin capricieux qui demande ce qu'il veut. Je crois qu'il est très important aujourd'hui, plus que jamais, de savoir remercier. Remercier le bon Dieu. Donc la première des choses qu'il faut faire en cette fin d'année, c'est faire une action de grâce. Une action de grâce concernant la foi, concernant la charité, concernant l'espérance, concernant les trois vertus théologales. D'abord, une action de grâce concernant la foi. Pensez aux millions de personnes, aux millions de personnes autour de nous qui n'auront jamais cette foi. Pensez à ces millions de personnes qui ont reçu une éducation catholique, qui ont apostasié, qui ont oublié leur foi. Le bon Dieu a voulu, a permis que nous la gardions cette foi. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est parce que le bon Dieu nous aime d'une manière toute particulière. Alors on peut se poser la question, quelle drôle d'idée, pourquoi, mon Dieu, pourquoi est-ce que vous m'aimez d'une manière toute particulière? Demandez-lui cette question après votre communion. Pourquoi est-ce que le bon Dieu n'a pas voulu, n'a pas permis que vous et moi nous perdions la foi? Nous pourrions être comme les autres, hein. Vous savoir remercier. Si un petit garçon reçoit un beau cadeau pour son anniversaire et qu'il n'est pas capable de remercier ses parents d'avoir du beau cadeau qu'il a reçu, les parents reprennent le cadeau. Pareil pour nous. Pensons à remercier. Il faut remercier pour la foi et demander la grâce de la conserver cette foi. Si avec la grâce du bon Dieu, j'ai pu conserver la foi toute cette année liturgique qui se termine aujourd'hui, il faut demander la grâce de la conserver pour l'année qui arrive. Dans un an, j'aurai encore la foi. Est-ce que l'un d'entre nous peut dire, c'est certain que dans un an, j'aurai encore la foi? On ne sait strictement rien. Rappelez-vous Saint-Philippe Néri, tous les matins, et un saint. Saint-Philippe Néri qui disait tous les matins, Seigneur, gardez Philippe dans vos mains, parce que d'ici ce soir, sans votre grâce, je suis capable de me faire juif ou mahométan. Pareil pour nous. Sans la grâce du bon Dieu, je peux avoir perdu la foi dans 2-3 jours. Donc il faut penser, remercier le bon Dieu. Pour la foi, remercier aussi le bon Dieu pour l'espérance. Encore une vertu théologale très importante. C'est l'espérance qui permet que nous ne nous décourageons pas. Si nous ne sommes pas découragés malgré les épreuves et les difficultés que nous avons tous dans la vie de tous les jours, c'est grâce à Dieu, c'est le bon Dieu qui nous a donné cette grâce. Regardez autour de vous, encore une fois, des millions de personnes qui se découragent. À cause des difficultés financières, des difficultés familiales, des difficultés professionnelles, que sais-je, des gens se découragent complètement. J'en connais, vous en connaissez aussi. Pourquoi est-ce que le bon Dieu n'a pas permis que vous et moi ne nous décourageions, ne soyons découragés? Parce qu'il nous aime, encore une fois, d'une manière toute particulière. Enfin, il faut savoir remercier le bon Dieu pour la grâce de la charité, la grâce de l'état de grâce. La charité, encore une fois, c'est une grâce que mon Dieu donne pas à tout le monde. Il y a des millions de personnes autour de nous, encore une fois, qui vont passer leur vie dans le péché mortel jusqu'au cou. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a permis que vous et moi, nous puissions nous confesser régulièrement, que vous et moi, nous puissions peut-être, j'espère, vivre en état de grâce habituellement? Parce que le bon Dieu nous aime d'une manière toute particulière. Alors pourquoi le bon Dieu m'aime-t-il plus que les autres? Posez-lui la question. Vous pourrez dire, mais voilà une drôle d'idée. Il faut non seulement se poser la question, mais bien réaliser que si le voisin avait reçu les mêmes grâces que moi j'ai reçues cette année passée, peut-être qu'il serait plus serein que moi. Donc n'oublions pas que, avec tous ces cadeaux extraordinaires que nous avons reçus du bon Dieu, nous avons l'obligation de rendre grâce, remercier le bon Dieu. C'est la première chose à faire en fin d'année liturgique. Deuxième chose à faire en fin d'année liturgique, c'est demander pardon, évidemment. Parce que je n'ai pas toujours très bien répondu à ces grâces. Peut-être que chacun connaît sa vie, le bon Dieu a permis qu'au cours de cette année passée, j'ai eu un passage à vide et spirituellement parlant, je suis tombé dans le péché. Mais le bon Dieu m'a donné la grâce de la confession. Avant de me donner la grâce de la confession, il m'a donné la grâce de la contrition. Donc il faut savoir se mettre à genoux en fin d'année liturgique, demander pardon au bon Dieu pour toutes les fois où j'ai mal utilisé ces grâces. Toutes les fois peut-être où j'ai méprisé ces grâces, je les ai refusées. Demandons pardon, bon Dieu, pour tous les péchés de cette année passée, et demandons la grâce de ne pas les recommencer, ces péchés, au cours de cette année qui arrive. Enfin, il faut aussi remercier le bon Dieu pour la grâce, donc la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales. Vous voyez comme toutes ces choses sont absolument, absolument fondamentales. Donc demander la grâce de la foi, l'espérance de la charité, la grâce de la contrition pour le regret de ses péchés, encore une fois, c'est un don de Dieu. Hein. Le bon Dieu n'est pas obligé de nous donner la grâce de la contrition. Regardez Judas. C'est un apôtre. Il a fait des miracles. Puisque Dieu avait donné, notre Seigneur avait donné le don des miracles à tous ses apôtres. Donc Judas fait des miracles. Judas n'a pas regretté son péché. Saint-Pierre, lui aussi a fait des grosses bêtises. Il a renié trois fois notre Seigneur. Lui, il a reçu la grâce de la contrition. Pourquoi Saint-Pierre a reçu la grâce de la contrition et pas Judas? Allez savoir. Mais en cette fin de la liturgie, il faut méditer sur toutes ces choses. Enfin, après avoir remercié le bon Dieu, demandé pardon pour les péchés de l'année, il faut aussi voir ce qu'il faut changer, prendre quelques résolutions. Les résolutions qui concernent la prière d'abord, le sacrement, l'étude et la vertu de pénitence. D'abord, peut-être prendre une résolution concernant la prière. Est-ce qu'il y a une modification à faire, peut-être pour prier de façon plus régulière? Je n'ai pas de prier de temps en temps. Beaucoup de gens, ils prient quand ils sont en difficulté. Puis quand tout va bien, ils oublient complètement de prier. C'est différent pour chaque personne. Donc, apprenons à prier pour demander les grâces dont nous avons besoin, pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ. La prière, c'est quoi? C'est ces petits mots magiques qu'on apprend aux enfants. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, pardon. Des petits mots comme ça. Vous voyez, donc il faut apprendre à prier, il faut aimer la prière, demander cette grâce de la prière, prendre éventuellement quelques résolutions dans ce domaine, surtout la résolution du chapelet, peut-être tous les jours pendant cette année qui arrive. Puis prendre une résolution aussi, sans doute peut-être concernant la confession, pour nous confesser de façon régulière. Les personnes qui sont établies dans un état de vie doivent se confesser, je pense, au moins une fois par mois. Bon, parfois plus selon les circonstances. Savoir prendre une résolution aussi peut-être concernant l'étude. On a besoin d'étudier. Si on n'étudie pas notre foi, on l'oublie. Regardez le nombre de gens autour de vous qui ont oublié leur foi. Donc il faut étudier. Pas pour rien que j'ai mis toute une série de conférences d'études sur le site d'Anne-Marie. Donc, utilisez ce site éventuellement pour vous obliger, je dirais un minimum, me semble-t-il aujourd'hui, c'est l'étude au moins une heure par semaine. Là, je suis en train de mettre sur le site, toute une fois par semaine, je mets une conférence d'exégèse pour expliquer d'après les pères de l'Église les évangiles. J'ai déjà fait Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc. Là, j'ai commencé Saint Jean. Bon, il y a tout un cours de catéchisme pour adultes. Il y a les explications de la somme théologique de Saint Thomas, il y a des tas de choses. C'est pas pour rien que je fais ça, ce travail qui est une préparation considérable. Je le fais justement pour que les gens puissent étudier. Nous avons le besoin d'étudier. Et puis attention, ne pas oublier aussi dans les résolutions, peut-être un peu d'esprit de pénitence. En fonction de nos défauts, en fonction de nos difficultés, en fonction de nos faiblesses, travailler sur telle vertu. Demander la grâce de travailler sur telle ou telle vertu afin de profiter de toutes les grâces que le bon Dieu nous donne. Donc une petite pénitence, c'est différent pour chacun d'entre nous. Il faut faire son examen de conscience concernant la nourriture, concernant la façon de s'habiller, concernant l'étude, concernant quelque chose qui nous convient. Il faut faire tout ça en fin d'année liturgique pour se préparer à l'année liturgique qui arrive, qui commence en fait samedi prochain, le soir, à l'heure des Vêpres, on change d'année, on passe à l'année liturgique suivante. Il y a une phrase qui est, à mon avis, très importante dans l'oraison d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit l'oraison du 24e et dernier dimanche après la Pentecôte? Réveillez, Seigneur, l'ardeur de vos fidèles. C'est ce que nous demande l'Église. C'est ce qu'il faut faire en fin d'année. Réveiller l'ardeur de nos fidèles. Remettre un peu de bois dans le feu pour que le feu, les flammes soient plus chaudes, jaillissent plus facilement. Réveiller l'ardeur de nos fidèles concernant l'action de grâce, concernant la contrition, concernant les résolutions. Dans l'Épître aux Colossiens, Saint Paul nous dit qu'il faut mener une vie digne de Dieu de manière à lui plaire. Une très belle phrase. Est-ce que je mène une vie digne de Dieu? Une personne qui est baptisée a un caractère sur son âme. Ayant un caractère sur son âme, cette personne est tenue à un devoir de sanctification. Qu'on n'a peut-être pas au même degré quelqu'un qui a reçu toutes ces grâces. Parce que bon Dieu demande en fonction de ce qu'il a donné. Si j'ai plus reçu, bon Dieu demande plus, c'est normal. De même qu'on demande plus à quelqu'un qui a plus de facilité, la même chose se passe avec le bon Dieu. Donc il faut vivre de telle façon que nous soyons dignes de Dieu et que nous puissions lui plaire. Comment est-ce qu'on fait pour plaire au bon Dieu? On plaît au bon Dieu en vivant en état de grâce. On plaît au bon Dieu en remplissant nos âmes de ses grâces, en vivant en état de grâce, et en vivant loin du péché mortel. Le monde se divise en deux classes, deux groupes différents. Ceux qui cherchent à se plaire à eux-mêmes et ceux qui cherchent à plaire au bon Dieu. Ceux qui disent moi je et ceux qui disent au bon Dieu, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Donc il faut apprendre, vous voyez, à faire toutes ces choses. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, selon l'évangile de Saint Matthieu, le discours eschatologique de Saint Matthieu, il y a aussi quelques phrases, à mon avis, clés qu'il faut bien comprendre. Saint Matthieu nous avertit que l'abomination de la désolation sera dans le lieu saint. De quel lieu saint veut-il parler? Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit pratiquement les mêmes choses, en action au moins. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est rendu compte que les changeurs et les banquiers de l'époque occupaient le temple? Il a pris un fouet de corde. Il a mis tout le monde dehors. Et pas gentiment, il a renversé les tables. Il a mis tout le monde dehors en disant: « Vous avez transformé ma maison de prière en une caverne de voleurs. » Cette caverne de voleurs, ce n'est pas simplement l'Église. Si nous avons abandonné la foi, quand on abandonne la foi, l'Église dirait littéralement, au niveau humain, devient une caverne de voleurs. Mais cette caverne de voleurs, c'est aussi notre âme. Si je vis un tel péché mortel, si je vis un état de péché mortel, je transforme un lieu de prière en une caverne de voleurs. Donc cette abomination de la désolation dans le sanctuaire, c'est l'introduction du péché mortel dans mon âme. On n'est pas responsable de ce qui se passe à Rome avec toutes les imbécilités, les bêtises et les pertes de foi de ceux qui sont à Rome aujourd'hui, qui dirigent l'Église de Vatican II. Mais on est responsable de notre âme. Et donc le bon Dieu nous demande de nous occuper de notre âme pour que nous puissions faire exactement ce que le bon Dieu attend de chacun d'entre nous. Posons-nous cette question: que dois-je faire pour plaire à Dieu? Vivre d'une façon digne de Dieu. N'oublions pas que le jour où je vais mourir, je vais devoir rendre des comptes à Dieu. Et le bon Dieu va nous demander des comptes en fonction aussi du nombre de caractères que nous avons sur nos âmes. Nos âmes sont marquées de caractère. Tout ça, il y a trois sacrements de caractère, hein. Le baptême, qui donne le caractère d'enfant de Dieu. La confirmation, qui donne le caractère de soldat de Dieu. Et pour moi, l'ordre, qui donne le caractère de ministre de Dieu. Moi, j'ai trois caractères sur mon âme. Vous en avez deux. Mais le jour de notre mort, le bon Dieu regarde le nombre de caractères que j'ai reçus. Et en fonction de ce nombre de caractères, des caractères que nous avons reçus, il demande d'autres choses. Le bon Dieu va demander plus donc à quelqu'un qui a le caractère du sacrement de baptême qu'à quelqu'un qui est un païen. Le bon Dieu va demander plus à quelqu'un qui est un enfant de Dieu par le baptême et qui a en plus le sacrement de confirmation qu'à un enfant de Dieu qui a reçu le sacrement de confirmation. Et pour nous prêtres, encore pire, le bon Dieu va poser des questions aussi sur le caractère du sacrement de l'ordre. Vous voyez, il faut méditer sur toutes ces choses en restant dans la prudence. C'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faux Christ et des faux prophètes, c'est des gens qui commencent à trafiquer l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se passe à Rome aujourd'hui. On peut vraiment dire que Bergoglio à Rome est un faux prophète. Au lieu de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, il prêche l'homme. Prêcher les droits de Dieu et prêcher les droits de l'homme. C'est ça, faux prophète. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire très attention, ne pas nous tromper de combat. On entend beaucoup de bêtises aujourd'hui. On arrive en période électorale, pour ceux qui croient qu'ils vont changer quelque chose en mettant un bout de papier dans une urne, faites attention un peu à ce que vous faites.
Les gens, on reçoit des coups de téléphone, des gens qui applaudissent. Ah, Monsieur Zemmour est contre l'envahissement de l'islam, c'est magnifique. Très bien. Mais il y a 250 000 infanticides en France, tous les ans. 250 000 enfants qui sont coupés en morceaux dans le sein de leur mère. Elle dit quelque chose contre ça? Partout, partout en France, on change les lois pour permettre aux gens qui vivent contre nature un péché épouvantable de vivre en paix avec l'État. Et donc, il ne faut pas se tromper de combat. Le premier combat, ce n'est pas le combat, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Le premier combat, ce n'est pas le combat contre l'islam. Le premier combat, c'est le combat pour mettre le démon en dehors de mon âme. C'est ça le premier combat. Ça sert à quoi de se battre contre l'islam si j'ai un tas de péchés mortels jusqu'au cou? Ça sert à quoi de vouloir sortir l'islam du pays, éradiquer une fausse religion du pays si je donne si les sodomites prennent le pouvoir partout ou si je donne le pouvoir à un gamin de 10 ans décider par lui-même s'il est garçon ou fille? Donc attention, ces faux prophètes dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, ces faux Christ et ces faux prophètes. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous annonce aussi, c'est à la fin de l'évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui, qu'il va y avoir le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel. Les discours eschatologiques, ça veut dire les discours pour la fin des temps. C'est quoi ce Fils de l'homme, ce signe du Fils de l'homme? Ce signe du Fils de l'homme qui apparaîtra à la fin des temps, ce signe du Fils de l'homme, c'est la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve par la croix. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous condamne par la croix. Les deux. Il nous sauve par la croix dans la mesure où j'accepte cette croix, je la mets sur mes épaules. Il nous condamne par la croix dans la mesure où je refuse cette croix. Rappelez-vous ce qui a été dit de lui quand il était tout bébé, qu'il est venu se présenter entre les mains de sa mère et son père putatif au temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'a dit le vieillard Simon? Cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. Comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? Notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction par la croix. Et toute la différence qui existe entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II, on peut dire que c'est une Église catholique moins la croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est la rédemption. La croix, c'est le mystère du salut de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve par la croix. C'est pour ça qu'au centre de toute l'œuvre de sanctification et de l'œuvre salvifique de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos âmes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la messe. Pourquoi la messe? Pourquoi la Sainte Messe? Pourquoi la Sainte Messe est au centre de la vie des chrétiens? Parce que la Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Allez demander à l'Église de Vatican II s'ils croient que leur messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Ils vont vous rire au nez. Ils vont dire, mais pas du tout, c'est un repas, c'est un symbole d'unité, c'est un symbole de je ne sais pas trop quoi. Pour nous, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel, se met à genoux pour adorer notre Seigneur si je le peux physiquement, et je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ vient encore une fois me donner les grâces dont j'ai besoin pour que je puisse me sauver par la croix. Il n'y a pas d'autre moyen de se sauver que la croix. Et c'est là tout le mystère. Et que les gens veulent bien aller au ciel, mais sur un tapis roulant. Voilà. Alors, je vais aller au ciel en carrosse. Mais aller au ciel en portant la croix, pas question. Et regardez la vie de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas un lit pour dormir, il n'avait pas un oreiller pour mettre sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a voulu nous sauver par la croix, par la vertu de pénitence. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à. Quelque chose à faire en ce début d'année, ce fin d'année liturgique, et dimanche prochain, le début d'une année liturgique nouvelle, justement pour demander au bon Dieu toutes ses grâces. Donc, pendant cette semaine, il faut réfléchir un petit peu à tout ça. Comment je dois remercier le bon Dieu, toutes les grâces reçues, quels sont les péchés sur lesquels il faut vraiment que je travaille, mes faiblesses sur lesquelles il faut que je travaille, quelles sont les résolutions que je dois prendre concernant l'étude, les sacrements, la prière, la vertu de pénitence, pour que justement je puisse utiliser ce temps liturgique pour augmenter l'amour du bon Dieu. Il faudrait qu'à chaque fois que vous venez à la Sainte Messe, en sortant de l'Église, vous ayez plus d'amour dans votre âme que vous êtes rentré dans l'Église. Il ne faut pas dire, ah, moi j'ai la foi, pas de problème. Attendez, la foi, ce n'est pas une plante morte. Ouais, faut l'arroser. Et quand un jardinier arrose un arbre, il veut que l'arbre il grandisse, qu'il donne des fleurs, qu'il donne des fruits. Un arbre qui ne donne pas de fruits, qu'est-ce qu'on en fait? Rappelez-vous la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Figuier qui ne donne pas de fruits. Notre Seigneur Jésus-Christ se promenait avec ses disciples, il voit un figuier qui ne donnait pas de fruits. En plus, ce n'était pas le temps des figues. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le figuier. Et si le figuier s'est desséché, ce figuier c'est quoi? C'est nous. Si je ne donne pas de figues, si je ne donne pas de fruits, si je refuse d'utiliser les grâces que le bon Dieu m'a données, eh bien je ne pourrai pas justement donner des fruits. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie, parce que n'oubliez pas que toutes ces grâces passent par elle. Hein. On ne peut pas recevoir ces grâces sans elle, puisqu'elle est la médiatrice de toutes les grâces. Demandons à la très sainte Vierge Marie, à cette arrivée de l'Avent, le dimanche prochain, c'est le premier dimanche de l'Avent, vous verrez que pratiquement toutes les oraisons, surtout au bréviaire, pendant le dimanche, pendant le temps de l'Avent, sont consacrées à la Sainte Vierge. L'Avent, c'est quoi? C'est l'intervention de la Sainte Vierge, très Sainte Vierge Marie, qui arrive directement pour nous préparer à recevoir son Fils. L'Avent, c'est tout le temps de la grossesse de la très Sainte Vierge Marie qui se prépare à nous donner son Fils. Donc, il faut passer par elle. Donc, ayez vraiment cette grande dévotion vers Notre-Dame pour lui demander de nous donner cette grâce de la fidélité. N'oubliez pas que la plus grande des grâces qu'on puisse recevoir dans notre vie, c'est la grâce de la bonne mort. Qu'est-ce que c'est que la grâce de la bonne mort? C'est la grâce de la fidélité suprême. D'être trouvé fidèle le jour où le bon Dieu vient nous chercher. Et il nous a prévenu qu'il viendrait comme un voleur au milieu de la nuit. Il ne va pas nous envoyer un fax en disant j'arrive. Ce serait un peu trop facile. Le bon Dieu nous demande de vivre comme en état de grâce constamment pour justement pouvoir être trouvé prêt. En passant par la très Sainte Vierge Marie, pourrait être tout le temps prêt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.